On va lire Jacques 1, versets 2 à 4. Bien que je ne vais pas spécifiquement prêcher sur ce sujet, mais le sujet sur lequel je vais parler est la suite du sujet que j'ai abordé la semaine dernière. Et on avait lu ce texte, Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. La semaine dernière, on s'était concentré plutôt sur le verset 17 de Jacques 1, où il est dit que Dieu est un Dieu qui ne varie pas, un Dieu toujours le même, un Dieu en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. Et on avait vu que cette constance de Dieu, elle est la source de notre sécurité dans la foi. Dieu est un être fiable, digne de confiance, parce que c'est quelqu'un qui ne varie pas. Il ne varie pas dans son être, dans sa personnalité, dans sa vérité, dans ses intentions, ses projets, sa loi. On peut s'approcher de Dieu parce qu'on le connaît et il ne va pas changer. Le Dieu qui existait il y a des milliards d'années est le même qu'aujourd'hui et sera le même demain. Et cette constance qui est dans la personne de Dieu, eh bien, il veut aussi, comment dire, la reproduire dans nos vies. Les épreuves par lesquelles on passe ont pour but de produire en nous la persévérance. Et dans d'autres traductions, c'est la constance. Et la constance fait un travail en nous de maturation pour qu'on soit qualifié sans défaut et qu'il ne nous manque rien dans notre foi. Et ce matin, on va plutôt parler de ce travail de Dieu pour former en nous cette maturité spirituelle. S'il y a un terme qui, dans l'histoire du peuple de Dieu, le caractérise, dans l'Ancien Testament en particulier, c'est l'inconstance. En fait, toutes les histoires de l'Ancien Testament nous montrent un peuple qui varie constamment dans sa relation avec Dieu. Il peut être ce peuple porté à dire « Seigneur, nous allons te servir, nous allons t'obéir. » Et puis après, il se détourne de lui, il tourne sa veste, il renie ses engagements. Et toute la Bible, en fait, tout l'Ancien Testament nous parle, nous montre, nous donne des exemples d'inconstance du peuple de Dieu. Vous vous souvenez sans doute de la sortie d'Égypte, où le peuple de Dieu a vu des choses incroyables. La mer s'ouvrir, les 10 plaies frapper le peuple égyptien, le peuple qui sort, qui est préservé, mais à peine est-il parti. Moïse est-il absent 1 mois, 40 jours, sur la montagne qu'il se fait un veau d'or. Il oublie déjà ce Dieu, il n'y a pas longtemps, qu'il a libéré. À la fin du livre de Josué, Josué a accompli sa mission, il a accompli la promesse de Dieu, il a fait entrer le peuple à Canaan. Dieu, le peuple a vu la puissance de Dieu défaire les autres nations qui étaient là. Et Josué dit, il demande au peuple de choisir qui il veut servir. Le peuple répond, nous servirons l'Éternel. Josué leur dit, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. Le peuple répondit, oui, nous en sommes témoins. Et il suffira d'une génération à peine pour que cette promesse tombe dans les oubliettes. Le peuple adopte les cultes des peuples qui ont été défaits par Dieu et se met à se prosterner devant les idoles qui pourtant n'ont pas sauvé les peuples qui étaient là. Dieu connaît l'inconstance de son peuple, mais il ne s'y résout pas. Et une des promesses que Dieu fait à Israël, elle se trouve dans Ésaïe 57, verset 16, je vais vous la lire. Il parle d'Israël. « Le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai, je l'assurerai d'une pleine consolation. » Plusieurs versets sont là pour nous dire que Dieu veut guérir le cœur, l'inconstance du cœur du peuple de Dieu. Et je crois que le cœur du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, c'est aussi le cœur du peuple du Nouveau Testament. On est sujet à l'inconstance. Et je rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. L'apôtre Jacques dit dans Jacques 1, verset 6, que celui qui est inconstant ne doit pas s'attendre à recevoir quelque chose du Seigneur. Verset 7. C'est un homme partagé, instable. Dieu ne peut pas répondre à la prière de quelqu'un qui change sans arrêt d'avis, qui n'est pas ferme dans sa conduite, qui un jour décide de marcher avec Dieu, le lendemain le renie ou l'abandonne. Et donc, un des travaux du Saint-Esprit dans nos vies, c'est de nous rendre constants, de nous rendre stables, je dirais, dans notre vie chrétienne. Alors ce matin, on va s'attacher à une cause d'inconstance. Il y aura plusieurs messages sur ce sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être approfondi. Et on va lire un texte dans Éphésiens 4, versets 11 à 14, qui parle des prescriptions de Dieu, ce que Dieu a mis en œuvre pour nous conduire à la stabilité. Éphésiens 4, versets 11 à 14. Le sujet de l'Épître aux Éphésiens, c'est l'Église. Et l'apôtre Paul cherche vraiment à nous montrer que Dieu a mis beaucoup de choses dans l'Église pour la formation, la maturation des membres de l'Église. Éphésiens 4, versets 11 à 14, « C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. L'apôtre Paul nous voit en tant que jeunes chrétiens nés de nouveau comme des enfants. Et c'est vrai que c'est extraordinaire la naissance d'un enfant, on en a sous les yeux là-bas. Et on peut s'émerveiller vraiment devant le miracle de la vie qui est un prodige, une œuvre extraordinaire, miraculeuse de Dieu. Mais tous ceux qui ont un peu d'années savent que la naissance d'un enfant, ce n'est pas une œuvre finie. Hein. C'est une œuvre qui commence en fait. Un enfant est un être en construction. Et je ne sais pas si c'est lié, quand on parle de la grossesse et de la naissance, c'est un travail pour la maman, déjà, pour faire naître hein, l'enfant. Mais c'est ensuite un travail qui continue pour le papa et la maman, jusqu'à ce que l'enfant soit éduqué, mature, capable de se diriger lui-même dans la vie. Je crois que c'est important de comprendre que chaque enfant qui naît a besoin d'un cadre, a besoin d'éducation, d'instruction et de correction. Un enfant qui est livré à lui-même ne peut devenir qu'instable, parce que l'enfant a besoin de cadre de référence. Il doit savoir ce qui est bien et mal, il doit entendre et comprendre là où il peut aller, là où il ne peut pas aller. Et ce qui est vrai sur le plan naturel, mais aussi sur le plan spirituel. La nouvelle naissance fait de nous des enfants de Dieu. C'est le miracle le plus extraordinaire. Mais ce n'est pas un miracle fini. Dieu veut nous conduire, comme on l'a lu ici, à la stature parfaite de Christ. Et Paul nous dit qu'il a mis, au fond, un cadre, que Dieu a institué l'Église comme une famille, en fait. Et c'est dans la famille de Dieu, avec les dons qu'il a donnés aux uns et aux autres, que notre formation se fait. On a besoin du cadre de la famille de Dieu pour pouvoir atteindre la maturité spirituelle. Et je crois que c'est essentiel, c'est une pensée qu'il faut souligner, c'est pas dans la pensée de Dieu de faire en sorte qu'un chrétien se développe tout seul. On n'est pas des autodidactes en tant que chrétien. On fait partie d'une famille et c'est à travers cette famille que Dieu nous forme et nous amène aussi à cette maturité qu'il vise pour nous. L'apôtre Paul nous montre aussi les dangers qui guettent le chrétien dans le stade de l'enfance. Vous l'avez lu au verset 14, « Nous ne serons plus de petits-enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. » Particulièrement dans la période de la jeunesse, mais c'est vrai aussi pour plus tard, on est en danger d'être influencé dans notre façon de croire les choses. Ralph Chalice disait dans un de ses livres, « Un nouveau-né est un sujet d'émerveillement, mais un homme de 40 ans qui se comporte encore comme un enfant est une monstruosité. » C'est vrai, je crois. On doit croître, mûrir, c'est nécessaire. Il est parlé d'un vent de doctrine. Donc c'est par les doctrines déjà qui peuvent être diffusées dans l'Église que notre foi peut être déstabilisée. On va prendre un texte, enfin plutôt une image de ce danger que représentent les fausses doctrines dans l'histoire de Job. Cette comparaison m'est venue en préparant ce message. Vous connaissez l'histoire de Job qui avait une maison stable, vraiment un homme de Dieu qui enseignait ses enfants dans la crainte de Dieu. Et un jour, il a été l'objet d'un défi spirituel et le diable a fait venir plusieurs malheurs sur la vie de Job, mais aussi sur sa maison. Et parmi ces malheurs, il est dit qu'un grand vent était venu du côté du désert, qu'il avait frappé contre les quatre coins de la maison de Job, la faisant s'écrouler sur ses fils et ses filles. C'est dans Job 1, verset 20. C'est intéressant qu'il utilise l'histoire du vent. Ce vent qui surgit d'un coup, on ne sait pas d'où il vient, et qui détruit en un instant, qui frappe les quatre coins de la maison, et qui détruit tout le travail que Job a fait avec sa famille. Et je pense que, bien sûr, là c'est une réalité physique, mais c'est vraiment aussi l'outil du diable, le vent de doctrine, qu'il essaye de faire souffler pour faire tomber l'Église, les enfants de Dieu, les amener à des comportements, à des pensées, à des façons de croire qui détruisent finalement le fondement de la foi. C'est un vent de doctrine, dit Paul, un enseignement qui vient parfois d'on ne sait pas où et qui voudrait faire croire aux enfants de Dieu, finalement, que Christ ne suffit pas. Ça, c'est souvent la nature de cet enseignement. Il faut adhérer à telle ou telle chose, passer par telle expérience, vivre avec telle personne, écouter tel orateur, pour connaître la plénitude de la bénédiction. C'est quelque chose que vous avez certainement entendu déjà. Quand j'étais jeune chrétien, j'avais 6 mois de conversion, j'ai été confronté à ce vent qui cherche à déstabiliser le chrétien dans sa foi. J'étais à l'armée, en plus j'avais pas de vie d'église, et je vous dis, j'avais 6 mois de conversion. Un chrétien plus âgé est venu me voir et m'a dit « En fait, tu es chrétien, mais tu n'es qu'un demi-chrétien. Tu as reçu Christ, mais tu n'as pas l'esprit dans sa plénitude. » Bien sûr, je ne parlais pas en langue, donc je n'étais pas un chrétien complet pour lui. Et c'était pernicieux, parce que ça pouvait être appuyé par certains versets bibliques qui pouvaient laisser penser qu'il me fallait vivre une seconde expérience, en quelque sorte, pour être un chrétien à 100%. On m'a même dit « t'as l'esprit de Jésus, mais t'as pas l'esprit de Dieu ». Ça, c'est difficile, hein. Parce que si j'ai pas l'esprit de Dieu, qui est Jésus, hein? Le danger, c'est que le diable connaît le cœur des enfants de Dieu. Il sait combien nous aspirons à quelque chose de profond et d'entier. Et parfois, les églises n'offrent pas cela. Et les chrétiens sont à la recherche constamment de nouvelles expériences pour trouver enfin ce qui fera d'eux des chrétiens, je pourrais dire entiers, hein, délivrés une fois pour toutes de leur instabilité. Et le diable suscite constamment de nouvelles doctrines ou pousse les chrétiens à rechercher de nouvelles expériences, alors que la Bible nous dit que nous avons tout reçu en Jésus-Christ. Je crois que c'est toi, Rebecca, qui disais dans ta prière que nous devons découvrir ce que nous avons reçu. C'est exactement cela. Si tu as reçu Christ, tu es né de nouveau. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu es baptisé en Christ, sanctifié par l'Esprit. Tu es adopté, scellé par l'Esprit. Et la Bible ne nous dit jamais de chercher autre chose que Jésus lui-même dans nos vies. Dans Jean 15, Jésus a donné à ses disciples un enseignement sur ce qui leur permettra de porter du fruit. Et la seule chose qu'il leur a dit, c'est de demeurer en lui, demeurer en Christ. L'apôtre Paul nous rappelle dans Colossiens 1, verset 16, « Vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. » Ce que nous avons besoin de comprendre, c'est ce que nous avons reçu déjà à travers Christ. Nous pouvons nous approprier par la foi tout ce que la Bible dit que nous sommes. Nous sommes des saints, nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et la Bible ne nous dit jamais de chercher ailleurs ou en plus de Jésus-Christ quelque chose de nouveau. Nous sommes, nous le savons, dans un temps qui est marqué par la recherche du spectaculaire et du sensationnel. Et avec les nouvelles découvertes, l'intelligence artificielle et tout ça, il faut s'attendre à ce que des séductions nouvelles puissent se présenter à l'Église. Des vents vont encore souffler aux quatre coins de la maison de l'Église pour essayer de la faire tomber. Mais Jésus a déjà prévenu ses disciples dans Matthieu 24 quand il parle des derniers temps. Il leur dit, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car de prétendus messies et de faux prophètes surgiront. Ils feront de grands prodiges, des signes miraculeux, au point de tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Matthieu 24, versets 23 à 24. Il faut remarquer que Jésus s'adresse ici, non pas à des incroyants, hein, mais aux disciples. Des disciples qui peuvent être séduits parce qu'on leur fait croire que le Christ est ici ou là. C'est comme si on disait, finalement, il faut vous rendre à tel endroit ou tel endroit pour rencontrer vraiment le Christ dans sa plénitude. Mais Jésus leur dit, n'allez pas. Ce sont de faux messages, ce sont des séductions. C'est quelque chose qu'on peut voir, vous avez peut-être un peu d'expérience déjà, mais il y a régulièrement ce qu'on appelle des vagues, première vague, deuxième vague, troisième vague de l'esprit, quatrième, je ne sais pas combien il y en aura. Mais qu'est-ce qu'elles font ces vagues? Elles vident les églises des chrétiens qui sont capables de faire des centaines, des milliers de kilomètres, de payer des milliers d'euros pour recevoir ici la bénédiction qui est en train d'être soi-disant donnée. Et cette séduction, elle est particulièrement pernicieuse parce qu'elle s'accompagne souvent de prodiges et de miracles. Mais Jésus nous a aussi prévenus de cela. Ils feront de grands prodiges et des signes miraculeux au point de tromper, si c'était possible, même les élus. Souvenons-vous des critères que Jésus nous a donnés pour reconnaître un phénomène spirituel, un critère d'authenticité. On va lire dans Matthieu 7, si vous voulez. Dans le sermon sur la montagne, Jésus donne d'abord le vrai critère, celui auquel on doit s'attacher, et après il dénonce les faux critères. Matthieu 7, on va lire verset 15. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus nous dit en quelque sorte, il est de votre devoir d'examiner de près la vie de celui qui prétend parler en mon nom. Porte-t-il le fruit qui est la ressemblance, le caractère de Christ? Ou bien est-ce qu'il cherche plutôt à s'enrichir, par exemple, aux dépens des autres? Est-ce qu'il vit dans l'immoralité? Quel train de vie est le sien? Est-ce qu'il abuse de sa position pour dominer, contrôler, abuser des gens? C'est important, parce que vous pouvez être séduit par la deuxième chose que Jésus dit à la suite, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Deux critères. Un critère d'authenticité, c'est le fruit. Est-ce que la personne, elle porte dans son être les traits de caractère du Christ? La patience, la douceur, l'humilité, la tempérance, le désintéressement. Est-ce qu'il donne sa vie pour les autres? Est-ce que c'est un serviteur? Ou bien est-ce que le peuple est juste pour lui un moyen pour se servir, s'enrichir, servir ses intérêts? Le faux critère, c'est de se fixer simplement sur l'apparence des miracles. Remarquez que la Bible ne nous demande pas d'imiter ce que Jésus a fait, mais ce qu'il est, toujours. Si, on peut suivre son comportement, ses actes, mais pas ses œuvres. Il le fait quand il le veut, ses œuvres. Mais c'est pas dans ce sens que la Bible nous invite à imiter Jésus. Alors pour nous garder et nous conduire vers la maturité, rappelons-nous que c'est auprès de la personne de Christ que nous devons venir et c'est à lui que nous devons nous attacher. Je voudrais donner trois avertissements pour conclure ce message. D'abord, soyons conscients que nous sommes dans une période où la séduction va se multiplier et s'étendre. Tous les avertissements bibliques sur les derniers temps, que ce soit dans l'Apocalypse, les lettres de Paul ou les discours de Jésus, portent sur le danger de la séduction. Dans 2 Thessaloniciens, vous connaissez, chapitre 2, versets 9 et 10, « La venue de l'impie, l'Antichrist, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. » Donc il se peut que nous soyons stupéfaits, ébahis par des choses qui se passent et qui nous impressionnent. Dans l'Apocalypse 13, verset 13, il est dit « La bête opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. » On n'a pas encore vu ça. Hein. Mais on sait qu'on est dans un monde de contrefaçon. Le diable est vraiment le spécialiste de la contrefaçon. Il sait que les miracles de Jésus, comme on l'a étudié dans l'évangile de Jean, attestent de sa divinité. Et il cherche à imiter, à reproduire, pour que les gens aillent vers un faux Christ. Il veut reprendre à son compte l'adoration qui revient à Dieu. Donc c'est le premier avertissement. On est dans cette période finale où, je dirais, le combat entre les forces spirituelles, célestes et sataniques est le plus fort. C'est la course vers la fin. Le deuxième avertissement, ou le deuxième recommandation, c'est que on a déplacé, finalement, en quelque sorte, le rôle du Saint-Esprit dans la Bible. Je vais m'expliquer. D'après Jésus, dans Jean 16, versets 13 et 14, quel est le rôle du Saint-Esprit ? Est-ce que nous sommes appelés à rechercher le Saint-Esprit ? Ou est-ce que le Saint-Esprit est le moyen que Dieu nous a donné pour chercher Jésus ? Vous comprenez ? Ce n'est pas la même chose. Jean 16, versets 13, 14, quand il parle de l'Esprit, Jésus dit « Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. » Mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le rôle de Saint-Esprit, c'est de mettre en avant la personne de Christ et de nous révéler Christ pour qu'on sache tout ce qu'on a en Christ. Il n'y a pas un verset qui nous dit « recherchez le Saint-Esprit », mais « recherchez la communion avec Jésus ». Paul dit « Je considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui. » Philippiens 2, 8 à 10. Hébreux 12, versets 1 à 2. Rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant quoi ? Les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Jean 14, Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Alors nous recevons des dons de l'Esprit de Dieu, nous recevons la lumière, l'illumination de notre âme par l'Esprit de Dieu, mais tout ça a pour objet de nous attacher toujours plus et de comprendre, de connaître toujours plus qui est Jésus. Et puis le troisième avertissement ou troisième instruction qui est importante, c'est un texte qu'on trouve dans Jean 4, verset 19. Dans le dialogue de Jésus avec la Samaritaine. La Samaritaine a posé une question à Jésus, où est-ce qu'il faut adorer Dieu ? Elle lui dit, nos ancêtres, les Samaritains, ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites, les Juifs, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui répond, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce qu'il faut aller à un endroit précis, passer par une personne précise pour devenir un adorateur? Non, c'est fini les lieux. C'est pas Rome, c'est pas Genève, c'est pas Tombouctou, je sais pas où c'est. Nous pouvons tous, par l'esprit et en vérité, conduits par la parole de Dieu, conduits par l'esprit, être des adorateurs de Dieu, en tout lieu. C'est une relation personnelle, vitale, entre nous et lui, qui se fait. Jésus a dit où il se trouve dans l'Évangile. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. À partir du moment où on est quelques-uns, ancrés en Christ, habités par la vie de l'Esprit, eh bien, le Seigneur est là. Et on ne peut pas recevoir plus que lui, que sa présence. Alors, pour conclure, la première cause d'inconstance, le danger qui guette surtout les jeunes chrétiens, mais ce n'est pas que pour nous. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ont des années de vie chrétienne et qui ne sont pas ancrés en Christ, qui cherchent toujours ailleurs quelque chose. La première cause d'immaturité, c'est le manque d'enracinement en Christ. On doit s'attacher à la parole de Dieu et aussi à l'Église, parce que c'est dans l'Église que Dieu a donné le cadre pour qu'on puisse grandir ensemble. Nous devons nous souvenir que nous avons tout en Christ. Nous sommes morts avec lui. La Bible parle au passé. Elle dit que nous sommes ressuscités avec lui. Elle dit même, quoi? Que nous sommes assis avec lui. Ce n'est pas quelque chose qui sera futur. Hein. On est déjà au ciel avec lui. Dieu nous a tout donné. Il ne peut pas nous donner plus que son Fils. Son Fils est ce qui fait sa joie éternelle. Le Fils est le reflet de la gloire du Père. On va lire un dernier texte, c'est dans Matthieu 17. J'aimerais terminer avec ça parce que c'est la vision qu'on doit aussi avoir. Matthieu 17, Jésus est avec Pierre, Jacques et Jean. Il les conduit sur une haute montagne. Et s'il y a des gens qui ont vécu des expériences extraordinaires, c'est eux quand même. Hein. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Ils s'entretenaient avec lui. Il n'y a personne dans le monde qui peut rivaliser en termes d'expérience avec ce qui se passe ici. Hein. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, faisons ici trois abris, un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation, écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre, furent saisis d'une grande frayeur, mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. C'est intéressant. L'objectif de toute la gloire, l'expérience extraordinaire qu'ont vécu les disciples, eh bien, c'est qu'ils considèrent vraiment qui est Jésus, qu'ils comprennent vraiment. À la fin de cette expérience, il n'y a plus qu'une seule chose qui était devant leurs yeux, une seule personne, c'était Jésus. Et je crois que ça résume bien, au fond, ce que Dieu veut, c'est que dans nos cœurs, quelles que soient les expériences, par ailleurs, qu'on peut faire avec Dieu, eh bien Jésus devienne de plus en plus le centre de de notre foi, de notre vision. Parce que c'est à travers lui que Dieu parle à travers nous, parle, nous parle, communique avec nous. Jésus, c'est l'échelle de Jacob. Vous vous rappelez ? Les anges montent et descendent du ciel jusqu'à la terre. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre pont. Il n'y a que Jésus et c'est à travers lui seul. Alors, que Dieu nous aide à nous attacher de plus en plus aux vérités de l'Évangile du Nouveau Testament qui nous disent ce que nous avons en Jésus, qui nous sommes en Jésus. Et je crois que si nous sommes satisfaits en Jésus, eh bien nous serons aussi déjà protégés de bien des dangers, hein, bien des séductions. Voilà, on va prier ensemble.